La première épître de Jean.
D'abord, première épître de Jean, chapitre 2, et au verset 14. Voilà, première épître de Jean, le chapitre 2, et le verset 14. Même on peut commencer au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Et puis on va lire un verset, un seul. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, et au verset 11. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, et le verset 11. C'est l'apôtre Paul qui écrit cela, donc, et qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. » Voilà. Alors, dans le passage que nous avons lu précédemment, dans la première épître de Jean, il est question de trois étapes. Enfant, jeunes gens, ou adolescents, si vous voulez, et puis père, c'est-à-dire homme adulte. Et voyez-vous, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, qui est la nôtre depuis que nous connaissons Jésus comme notre Sauveur, comme dans la vie naturelle, ordinaire, il y a un processus de croissance qui doit s'accomplir. On ne peut pas brûler les étapes. Hein? Il faut commencer par quoi? Par le commencement, c'est-à-dire par l'enfance. Mais s'il faut dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, commencer par l'enfance spirituelle, petits enfants, il ne faut pas en rester là. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, eh bien, un développement, il faut grandir. On voit ça déjà chez Jean-Baptiste, dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, qui nous parle particulièrement de la venue de ce prophète précurseur de Jésus. Il est dit ceci à son égard, Jean-Baptiste, « L'enfant croissait, se fortifiait en esprit, il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » On voit aussi ce phénomène, ce processus de croissance chez le Seigneur Jésus lui-même. Jésus a commencé par être un enfant. Hein? Et il est dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et au travers de ce processus de croissance, d'étape en étape, l'objectif est de devenir un homme fait. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 13, n'est-ce pas, inspiré par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous dit ceci, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voilà où Dieu veut nous emmener. Voilà où Dieu veut nous conduire. Il désire que nous parvenions à l'état d'homme fait, mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce qui signifie que pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que peu à peu soit éliminée l'immaturité de l'enfance. Vous comprenez ça? C'est pour ça que l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu dans l'épître aux Corinthiens, nous dit que quand il est devenu un homme, il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors ce matin, ça ce n'était que le préliminaire, je voudrais voir avec vous quelles sont les caractéristiques de l'enfance spirituelle. Caractéristiques dans lesquelles il ne faut pas s'installer à demeure, en permanence, à vie, mais desquelles il faut sortir par la grâce de Dieu pour grandir, pour mûrir. Tenez, puisque nous sommes dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, l'apôtre nous dit ceci, hein, je relis ce que je vous ai lu précédemment, que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il y a deux caractéristiques concernant les enfants. D'abord, il est dit qu'ils sont flottants et facilement emportés à tout vent de doctrine. On sait que les enfants sont influençables. C'est pas vrai? Hein? Un enfant, le dernier qui a parlé a raison. Et parfois, il y a des chrétiens qui sont de ce calibre-là, vous voyez, spirituellement parlant, moralement parlant, ce sont de petits enfants et ils sont facilement influencés, séduits, trompés par les propagateurs de fausses doctrines. Et aujourd'hui, mes amis, des fausses doctrines, elles poussent comme les pâquerettes au printemps. Ça surgit de toutes parts. Et je m'étonne parfois de constater que certains croyants ou des gens qui se revendiquent comme tels puissent se faire ainsi embarquer, excusez-moi l'expression un peu triviale, par toutes sortes de bonnes menteurs. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons plus être de ces enfants emportés à tout vent de doctrine. Alors, pour ne pas être influencé, pour ne pas être séduit, pour ne pas être trompé facilement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir dans notre cœur et dans notre esprit aussi, parce que Dieu ne nous demande pas d'oublier de réfléchir, il faut avoir de solides convictions. Et ces convictions doivent être établies non pas sur des idées personnelles, ou sur les idées d'autres personnes qui nous auraient transmis quelque chose. Mais ces convictions que nous devons posséder en nous-mêmes, elles doivent être établies sur la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 16, c'est un verset que je cite souvent, l'apôtre Paul, justement, abordant le thème de la parole, dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre. » C'est la parole de Dieu qui va nous convaincre, qui va forger en nous des convictions solides. Établi non pas sur notre esprit qui gamberge ou l'esprit des autres, mais sur la parole de Dieu. Vous savez, déjà du temps de l'apôtre Paul, il y avait des perturbateurs. C'est quand même étonnant. Moi, je constate que lorsque Paul allait dans une ville, il exerçait son ministère, et on sait quel ministère puissant il exerçait. Il y avait des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes magnifiques. Les gens se convertissaient. Bon, une église était établie, et puis Paul, il continuait sa route, et il allait plus loin. Et derrière lui, eh bien, venaient de faux ouvriers, de faux apôtres, de faux enseignants, de faux pasteurs, des bonimenteurs qui racontaient à peu près l'inverse de ce que Paul avait dit, et les gens, qui pourtant avaient bénéficié d'un ministère aussi remarquable que celui de l'apôtre Paul, ils se laissaient facilement embarquer. voyez. Et les temps n'ont pas changé. Aujourd'hui, c'est la même chose. Voyez. Alors, l'apôtre nous dit, par exemple, dans la deuxième aux Thessaloniciens, je lis ça pour vous, il est dit ceci, au chapitre 2 de la deuxième aux Thessaloniciens, pour ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous rendez compte? Il y a des gens à Thessalonique qui, après le passage de l'apôtre Paul qui avait fondé l'Église, venaient raconter que Jésus était déjà revenu. Voilà. Et ils se laissaient séduire, se laissaient tromper. Et Paul les exhorte en disant, mes frères, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration. Ce n'est pas parce que quelqu'un se présente comme étant divinement inspiré qu'il l'est. Il faut vérifier que ce qu'il raconte est en accord avec la parole de Dieu. Attention, pas un verset de la parole, mais l'ensemble de l'enseignement des Écritures. C'est pour ça qu'il faut toujours en revenir à la parole. À la parole. Et il faut que les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, que je suis, eh bien, nous prenions cette saine habitude, voyez, d'avoir ce temps où nous lisons la Bible sous le regard du Seigneur. Et où nous passons du temps dans sa présence. On n'a pas besoin d'outils technologiques divers qui nous racontent des salades. On a besoin d'un contact personnel avec la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Prenez la saine habitude d'ouvrir votre Bible, tout seul, avec Dieu, seulement, et de dire, Seigneur, par ton esprit, éclaire-moi, montre-moi, parle-moi. Je veux ta présence, je veux ta communion. Et ça vous gardera de tout ce qui peut, eh bien, ne rien avoir avec les doctrines bizarres qui se présentent. Par contre, voyez, puisqu'on parlait de Paul, l'Écriture nous fait part de ce qui se passait dans la ville de Bérée, qui était une ville voisine de Thessalonique. Et lorsque Paul est arrivé dans cette ville pour y prêcher la parole, il est dit que ces gens-là avaient des sentiments nobles, des sentiments nobles. Et la noblesse de leurs sentiments résidait dans le fait qu'ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures, par eux-mêmes donc, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà, ils voulaient quelque chose de solide, basé sur la parole. Et c'est ainsi qu'il nous faut, frère, ne pas être de ces enfants emportés à tout vent de doctrine. En plus, ensuite le texte nous disait des enfants flottants. Le propre de l'enfance, c'est non seulement d'être influençable, mais c'est d'être aussi instable. Les enfants, les papas et les mamans le savent, ont du mal à maîtriser leurs émotions, c'est pas vrai? Ils passent facilement du rire aux larmes, et inversement, hein, des larmes au rire. Hein, vous leur arrachez le jouet, vous leur rendez le jouet, et ils vous font un grand sourire. Ils sont flottants. Et il y a des croyants, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Certains croyants sont pleins d'enthousiasme un jour. Waouh! Ils ont une énergie formidable, un zèle remarquable. Ils voient la vie en rose. Et puis, lorsque se profile à l'horizon la moindre difficulté, ils sombrent dans la morosité, dans l'abattement et dans le découragement le plus profond. Attention, c'est vrai que parfois il y a des coups durs, très durs, qui nous tombent dessus et on comprend que l'on soit abattu, même si après, par la grâce de Dieu, on peut réagir. Mais voyez, il y a parfois des babioles. Hein, la vie est ainsi faite. C'est pour les croyants, c'est pour les non-croyants. Il y a des contrariétés, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a une facture qui arrive alors que vous rentrez de vacances et que les fonds sont en baisse, etc., etc. Mais ça, c'est la vie, voyez. Et il ne faut pas que, en tant que chrétiens, nous soyons ainsi flottants. transporter l'enthousiasme un jour et dans le comble du désespoir le lendemain parce que il y a eu une bricole. Non, il faut être plus solide que ça. Où est le problème, en l'occurrence? Le problème, c'est un problème de foi. Le doute nous rend instable. Ah ouais, nous rend instable. C'est l'apôtre Jacques qui raconte ça dans son épître. Laissez-moi vous dire ce passage. Alors il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Alors on peut demander la sagesse ou autre chose. Mais le principe est le suivant. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute, voilà ce qui nous occupe, est semblable au fond de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il y a une belle image là. La mer, par définition, c'est instable. Ça monte et ça descend. Ça va à gauche, ça va à droite, ça remue toujours. Eh bien, l'apôtre nous dit, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui doute, il est semblable au fond de la mer. Il fait preuve d'instabilité. Alors, quand un homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Donc, il nous faut faire en sorte que le doute laisse place à la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi n'est pas faite d'émotions, d'impressions et de sensations. Non, la foi, elle est fondée sur les promesses invariables, inébranlables, que le Seigneur nous a faites, justement encore dans sa parole. Romains chapitre 5, verset 17, dit ceci, non, 10, verset 17, nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et il nous faut nous appuyer sur le roc de la parole. Regardez Jésus au désert. Il est là dans le jeûne et la prière. N'essayez pas de faire comme lui, hein. C'est exceptionnel. Depuis 40 jours et 40 nuits. Quel genre d'impression avait-il au bout du compte? Qu'est-ce qu'il ressentait d'après vous? La faim. C'est le seul témoignage que nous rend les Écritures. Il ne dit pas qu'il était transporté au troisième ciel. Il eut faim. Il n'a pas dit je ressens, Dieu est là. Non, non. Mais quand le diable est venu le tenter, il n'a pas dit non, attention, je sens ou je ne sens pas. Mais il a dit, il est écrit. Sa foi ne reposait pas sur ses sensations humaines, parce qu'il était un homme, mais sur la parole de Dieu et les promesses des Écritures. Et bien c'est de ça que vient la foi, voyez, sur la parole de Dieu. Si vous vous basez sur vos impressions, vos sensations et vos émotions, vous serez constamment instable et fragile. Un jour ça ira, un jour ça ira pas. Et mes amis, qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, le Seigneur est toujours sur son trône. Amen. Et les promesses de Dieu, elles sont toujours aussi fiables. Et c'est sur ces promesses qu'il nous faut nous appuyer. Ensuite, les enfants, ils ont d'autres caractéristiques. Regardez, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 21, voici ce que nous lisons. Il est dit ceci, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Il y a là un excellent principe, vous voyez, le Seigneur, c'est un bon psychologue, et en matière d'éducation, il sait de quoi il parle. Et il recommande aux parents, et peut-être particulièrement aux pères, justement, de ne pas exacerber leurs enfants par des reproches constants. Mais enfin, pourquoi le Seigneur dit-il cela? D'une part, c'est vrai parce que les parents doivent faire preuve de sagesse dans l'éducation qu'ils dispensent à leurs enfants, mais aussi parce qu'il sait que les enfants, par définition, s'irritent facilement. C'est vrai? Un gosse, il se met facilement en colère, hein? Lorsque quelque chose le contrarie, eh bien, il s'irrite. Et parfois, hein, je marche sur des œufs là. Hein, il y a des chrétiens, ils sont un peu comme ça. Ils sont facilement irritables. Allez, je le dis, capricieux et susceptibles. La moindre parole de travers, mon Dieu, la moindre maladresse qu'ils ont peut-être interprétée abusivement, et ils prennent la mouche, ils se vexent et ils boudent. Et il y a des chrétiens comme ça. Ça, c'est être un petit enfant. Mes amis, si dans le cadre de la famille, du couple, vous boudez, ou dans le cadre de l'Église, pareil, vous boudez, vous êtes, avec l'amour du Seigneur, je veux vous le dire, un petit enfant. Et vous êtes éloigné du modèle que Dieu vous a fixé dans sa parole. Il faut s'affranchir de cette délicatesse, de cette fragilité extrême, voyez ? Je dirais que le cœur, doit rester tendre, mais le cuir doit se tanner. Comprenez ce que je veux dire? Alors c'est vrai aussi, il faut le dire, que certains, dans leur enfance justement, dans leur adolescence, dans leur passé, ont vécu des choses dures, de véritables traumatismes sur le plan émotionnel, qui les ont rendus fragiles. Alors il faut discerner avec la grâce de Dieu l'origine du problème, se placer devant le Seigneur et dire: Seigneur, mais d'où ça vient? Pourquoi est-ce que la moindre parole de travers me met sans dessus? Et lorsque le Seigneur nous aura révélé que le nœud du problème est ici, parce qu'il y a une souffrance enfouie dans notre cœur, il faut s'approcher de lui, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la guérison. Physique, mais aussi morale et psychologique. Vous savez, la susceptibilité, ça peut aller très loin. Hein? Il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Achitophel. Vous connaissez son histoire? Achitophel, je vois qu'il y en a qui froncent les sourcils. Qui c'est celui-là? Hein? C'était un ami de David. Enfin, un ami. Un ami qui l'a trahi. Et Achitophel, lorsque Absalom, le fils de David, a voulu faire la révolution, il est passé du côté des révolutionnaires. Donc il a trahi son ami David. Et Achitophel a donné un conseil au nouveau roi, enfin celui qui revendiquait le fait d'être roi, de prendre la place de David son père. Et la parole de Dieu nous dit que en ce temps-là, les conseils d'Achitophel étaient considérés comme les conseils de Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup trop ça, hein? Mes amis, personne ne peut prétendre que chaque fois qu'il ouvre la bouche, pour un oui, pour un non, c'est parole d'évangile. Mais lui, il avait une telle réputation de sagesse que, voilà. Et ce jour-là, le conseil d'Achitophel n'a pas été suivi. Vous savez ce qu'il a fait, Achitophel? Il est rentré à la maison et il s'est pendu. Par orgueil blessé, par susceptibilité exacerbée. Alors, vous n'en arriverez pas là, hein. Mais il y a parfois des gens, voilà, il y a cette susceptibilité maladive. Seigneur, si c'est mon cas, guéris-moi. Amen. Le problème n'est pas chez l'autre, qui m'a peut-être un peu égratigné, mais le problème, il est chez moi. Si on vous a égratigné, ne prenez pas la mouche. Manifestons, je me mets dans le coup, hein, l'état d'esprit que Dieu veut que nous ayons. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, au verset 11, nous laisse, comme dans tout le livre des Proverbes, un excellent conseil. Proverbes chapitre 19, je vous cherche le passage, le verset 11, il est écrit ceci: l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Écoutez la suite. Il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. On m'a offensé, peut-être des fois involontairement. On m'a pris à rebrousse poil. Bon, c'est peut-être pas très agréable. Mais plutôt que de ruminer là dans mon coin où il est boudé, Seigneur, je vais mettre mon point d'honneur à oublier l'offense que j'ai subie. À faire grâce. à pardonner, à faire miséricorde. Voyez ? Ah, manifestons de l'indulgence, de la miséricorde, de la patience, du support, un esprit de pardon. Et tout ça, voyez, c'est une preuve de maturité spirituelle. Il faut sortir de l'enfance. Une preuve de maturité spirituelle. Quand on est indulgent, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter dans l'Église, hein, n'importe quoi. Non, non, non. Mais envers les petites contrariétés que nous pouvons subir de la part des uns, des autres, savoir être indulgent, miséricordieux, patient, supporter, pardonner, faire grâce, comme Dieu nous fait grâce. Ça, c'est une preuve qu'on est un homme, une femme. Un homme ou une femme fait, mature, en Christ. Sinon, on est de petits enfants. Et nous sommes appelés à sortir de l'enfance. On continue ? Vous avez 5 minutes encore ? Bon. Alors, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 11, il y a encore quelques caractéristiques qui nous sont suggérées, qui sont le propre de l'enfance. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 11. Vous savez aussi, dit Paul, à ces croyants de Thessalonique, il leur dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Paul évoque là les premiers temps de son ministère à Thessalonique. Et parmi son ministère, parmi ces Thessaloniciens qui étaient nouvellement convertis, alors il les veillait, comme on dit, comme le lait, sur le feu. Il était à leurs petits soins. Parce que, il faisait ces gens-là leur premier pas dans la foi, leur premier pas dans la vie spirituelle. Vous savez qu'un enfant, plus il est jeune, et plus il a besoin de soins, c'est pas vrai? Un bébé, mes amis, oulala, surtout si c'est le premier, on n'en sort pas, hein, le bibi, les couches à changer, et puis il faut leur secouer pas trop, hein, le berceau pour les endormir, et puis ils braillent quand vous voulez dormir, oh là, c'est 24 heures sur 24, hein. Avec ma femme, on avait établi un tour de garde. Hein. Toi, tu dors, moi, je veille, et la nuit d'après, c'est l'inverse, hein, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Voilà. Un enfant, il a besoin qu'on soit près de lui, qu'on l'entoure de soins bienveillants. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il faut l'aider à parvenir à l'autonomie. Hein. Il va apprendre à s'habiller tout seul, à se laver tout seul, à faire les devoirs tout seul, à aller à l'école tout seul, parce qu'il va grandit. Il y a parfois des parents, ils s'aiment pas ça, hein. Voilà, hein. Le gamin, il a 15 ans, qui sont encore, moi je connais un homme, il est adulte. Il sait même pas se nouer les cordons des souliers. Je vous assure, c'est vrai. C'est sa femme, parce qu'il est marié aujourd'hui, qui est obligé de le lui faire. Pourquoi ça? Parce qu'on l'a trop coucouné, ce gamin, hein. Vous voyez? Voilà, voilà. Et, pour en revenir à nos sujets qui nous intéressent, au début de notre vie chrétienne, c'est normal qu'on nous entoure de soins, je dirais presque constants, que l'assistance soit fréquente et attentionnée de la part des aînés dans la foi. D'autre part, c'est vrai, quand quelqu'un nouvellement converti ou anciennement converti est frappé par de dures épreuves, il a particulièrement besoin d'être entouré, soutenu, encouragé, consolé. On connaît ce texte qui dit « Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et quand un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Mais il est également vrai, en dehors des cas particuliers de l'épreuve de certains, qu'il faut, au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, tout au moins que nous devrions, comme dit. Il faut apprendre à dépendre de plus en plus de Dieu et de moins en moins des hommes. Un peu plus de Dieu et un peu moins des hommes. Pour parvenir, non pas à l'indépendance absolue, vous savez, les gens qui disent « Moi, j'ai besoin de personne, je ne dépends que de Dieu. » Ça, c'est excessif et c'est faux. Mais d'autre part, il faut quand même qu'il y ait ce phénomène de maturité spirituelle qui fait que lorsque on est confronté à certaines difficultés, on va tout seul comme un grand chercher le secours de Dieu. Vous voyez ? On va chercher le secours de Dieu. Il ne s'agit pas d'indépendance absolue, ce serait une erreur de penser qu'on a besoin de personne, mais il s'agit de parvenir à l'autonomie spirituelle, de ne pas rester constamment des enfants. Un arbre, quand il est jeune, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met un tuteur. Hein ? Sur le parking de l'église d'Avignon, on a planté des arbres, parce que l'été il fait chaud, pour que les voitures puissent être à l'ombre, on a planté des arbres. Et alors, vous savez, là-bas, le Mistral souffle. Et quand les arbres sont livrés à eux-mêmes dès le départ, ils poussent tordus. Alors, à chaque arbre, il y a un frère qui a mis un tuteur, et il a bien fait. Mais maintenant que le tronc s'est épaissi, le tuteur a plus. N'a plus besoin, parce que l'arbre est suffisamment solide pour résister aux assauts du vent et rester droit. Eh bien, un chrétien, c'est pareil. En tout cas, ça devrait être pareil. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à sortir de l'enfance, vous comprenez ? N'allez pas dire, bon, mais c'est comme ça, ça veut dire que le pasteur ne veut plus s'occuper de moi. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. On est à votre disposition, vous le savez, jour et nuit. Mais il faut aussi accepter de grandir, de se développer. Que vous dirais-je encore ? Les enfants nous sont oublieux, hein ? L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous dit « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » L'exhortation est la suivante, en l'occurrence. « Mon fils, n'oublie pas le châtiment, la correction du Seigneur. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Les enfants sont oublieux. Vous qui êtes papa et maman, ça ne vous est pas arrivé de leur dire « Je t'ai déjà dit que... » Hein ? Ah oui, je t'ai déjà dit, t'as oublié, hein? C'est passé par là et puis c'est ressorti de l'autre côté. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on est oublieux. Est-ce que vous avez remarqué que dans les évangiles, souvent Jésus répète deux fois les mêmes miracles? Vous lirez l'évangile, il y a deux tempêtes apaisées, il y a deux pêches miraculeuses, il y a deux multiplications de pain. Et en cherchant, on trouverait certainement autre chose. Pourquoi ? Parce que les disciples que le Seigneur voulait éduquer, former, au travers des miracles qu'il accomplissait, et dont ils étaient témoins, avaient oublié. D'ailleurs, Jésus, à un moment, leur dira, « Mais n'avez-vous point de mémoire ?» Alors Dieu a dû répéter la même leçon. Hein ? C'est un pédagogue, le Seigneur. Et quelqu'un a dit que l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter. Hein? Oui, c'est vrai, il y a des leçons de la vie, et parfois, certains chrétiens commettent toujours les mêmes erreurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont oubliés, et ils n'ont pas su tirer profit des expériences précédentes. Ils démontrent par là qu'ils sont des enfants. Seigneur, si tu m'as fait vivre certaines choses, si tu as permis qu'ici ou là, peut-être, du fait de mes erreurs, je me sois cassé les dents, aide-moi à m'en souvenir pour ne pas répéter la même erreur la prochaine fois, mais en prendre de la graine de ce qui m'est arrivé, et qu'ainsi je devienne un chrétien mature. Et enfin, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, nous dit que les enfants, ils ont besoin de lait, et non d'une nourriture solide. Vous voyez ? Eh oui, hein, un bébé qui vient de naître, on va lui donner un beefsteak, hein, ça l'étoufferait. Mais il y a un moment où du beefsteak, il faudra qu'il la mange. Oui ou non ? Hein, c'est vrai. Et il y a parfois des enfants, même grands, ils sont toujours pendus au sein de la maman. C'est vrai. Alors, mais il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'après le lait, il y ait les petits pots, là, vous voyez, je sais tout. Hein. Puis après le reste, hein, le beefsteak, la purée, les légumes, ils n'aiment pas ça, mais il en faut, surtout si c'est vert. Hein. Et voilà. Mais il y a des chrétiens, vous voyez, eh bien, on est obligé toujours d'en revenir aux enseignements rudimentaires, élémentaires de la parole de Dieu, justement car l'élémentaire n'a pas été acquis, n'a pas été compris. Dans le monde de l'éducation, vous avez peut-être entendu cette expression, on parle des acquis fondamentaux. Pour qu'un enfant qui va à l'école, quand il en sort, il sache lire, écrire et compter, un minimum. Mais vous savez qu'on s'est aperçu que même des jeunes gens qui rentrent à l'université, ils ne savent pas comment il faut lire et écrire dans certaines universités, pourtant ils ont le bac et tout le reste. Eh bien, on a remis en place des cours de français pour apprendre à lire, à comprendre un texte et à écrire correctement. C'est un monde quand même. Vous voyez, ils sont restés quelque part. Intellectuellement, on va dire, des enfants. Et il ne faudrait pas que nous, ça nous arrive sur le plan spirituel, alors que Dieu nous aide à grandir dans la connaissance de sa parole. On arrive au terme de notre réflexion. Peut-être on pourrait prier le Seigneur en lui disant, Seigneur, aide-moi à grandir. Amen. Hein? On devrait mettre un point d'honneur. Quand un gamin vous dit « Ah, depuis que je ne t'ai pas vu la dernière fois, tu as grandi. » Oh, vous sentez que ça le valorise, il s'en est aperçu. Hein? Vous voyez ? Eh bien, on doit mettre aussi, nous, un point d'honneur à grandir. Je ne veux pas toujours rester un enfant. Le problème, c'est comment ? Aïe, 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 comment grandir ? Eh bien, la parole de Dieu nous le dit, alléluia, heureusement qu'elle est là, la parole. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 18, voici ce que l'homme de Dieu nous dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Deux éléments, croissez dans la grâce ou par la grâce. Et dans la connaissance ou par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, il va le faire. Amen. Il va nous aider à grandir. Hein? Comment fait un enfant pour grandir? Est-ce qu'il fait des efforts? Il tire pour prendre quelque... Non, non, il absorbe la nourriture, il vit une vie saine que s'efforce de lui donner ses parents, et ça se fait, c'est naturel, c'est spontané. Eh bien, mes amis, la grâce de Dieu, que Dieu répand sur nous en réponse à la foi, nous permet de grandir. Croyez que vous allez faire des progrès. Amen. Amen. Croyez que votre pasteur va faire des progrès. Amen. Amen. Alléluia. Paul dit dans une épître, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Ne vous lamentez pas sur vos échecs, mais dites, « Seigneur, en toi, il y a le moyen de sortir de l'ornière et de faire des progrès. Je ne peux pas par moi-même, mais je veux compter sur ta grâce. » Et la grâce de Dieu vous sera acquise. Bien sûr, il y a tout un travail, une réflexion qu'il faut mener, de remise en question, de repentance, d'humiliation devant Dieu. Et puis, Seigneur, eh bien, par ta grâce, je vais y arriver. Je vais devenir meilleur que ce que je n'ai été jusqu'à présent. Alléluia. Et je veux déjà aussi mesurer le chemin parcouru, ne pas me décourager à l'extrême en disant, mais je n'y arrive pas, je suis toujours le même, c'est pas possible. Seigneur, je suis en train de stagner. Non, Seigneur, j'ai peut-être pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, mais aussi minime soit-il, je te rends grâce pour le progrès que tu m'as donné de réaliser, et je veux compter sur ta grâce pour me permettre d'en réaliser beaucoup d'autres. Amen. Et puis par la grâce et par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire notre communion avec Dieu, voyez ? C'est lui qui nous forge, qui nous façonne, qui nous transforme. Il y a un proverbe, il n'est pas dans la Bible, mais il n'est pas idiot, qui nous dit, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous avez remarqué ça, hein? On est influencé par ce qu'on fréquente. Si vous fréquentez des gens peu recommandables, vous allez devenir comme eux. C'est pour ça qu'on parle de mauvaise fréquentation, parce qu'il y a une influence. Si vous fréquentez des gens bien, voyez, équilibrés, sains et saillants d'esprit, eh bien, vous avez quelque chance de finir par leur ressembler. Ben, si nous fréquentons le Seigneur, ça va déteindre sur nous, hein. D'ailleurs, il y a un texte dans l'Épître aux Corinthiens qui dit que, en le contemplant, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, vous voyez, il faut se plaire à passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia! Laisse-moi tomber les séries télévisées de 4 jours, les romans à l'eau rose et tout le reste, et passer du temps dans la présence de Dieu. Prenez-y plaisir et vous grandirez en lui. Nous grandirons en lui. Il y aura un développement progressif, une croissance harmonieuse et nous deviendrons des croyants matures, comme disait Paul dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons lu au début, des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Hein? Alors on va dire comme Paul, hein? Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Allez, je vais, avec ton secours, Seigneur, en finir avec ces balbutiements d'enfant spirituel. Et je veux croître dans la grâce. Amen. Allez, on prie le Seigneur. Notre Dieu, notre